Regarde, Betty, une pâquerette.
C'est un bon endroit pour nous installer.
La pâquerette est une plante très rustique formant des touffes denses. Espèce commune, tidicline à calcicline, elle fleurit toute l'année, mais surtout de mars à novembre.
Aura des pâquerettes.
Toutes ces herbes folles.
Engrais parfaitement naturel.
On va arroser ça.
Mais non, les pâquerettes ne chantent pas, même si elles sont folles.
Aura des pâquerettes. L'émission qui prend de la hauteur.
Le rendez-vous mensuel d'Aura FM, la Fédération des radios associatives d'Auvergne-Rhône-Alpes.
Aura des pâquerettes.
Raconte-moi une histoire. Que ce soit de l'histoire ancienne ou une histoire à dormir debout. Ou même à dormir couché. Ce soir, un invité tu découvriras à travers l'histoire qu'il va te raconter.
Je m'appelle Auriane et je viens de Picardie, dans le nord de la France, pour aujourd'hui habiter dans la Drôme. Et aujourd'hui, j'aimerais vous raconter comment je suis passée de la Picardie à la Drôme en passant par l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie, la Serbie, la Bulgarie, la Géorgie et l'Ouzbékistan. Et tous ces pays qui ont un point en commun, en tout cas dans lequel j'ai pu mettre un point commun, qui est notamment aussi mon métier de tailleur de pierre. On peut dire tailleur E de pierre au féminin ou tailleuse de pierre. Je suis née en Picardie dans les années 90. Ma mère était, puisque aujourd'hui elle est à la retraite, et elle était secrétaire dans une pharmacie. Et mon père était modeleur sur bois, un métier qui a disparu, mais qui consistait à réaliser les moulages des moules pour les pièces. Industriel et donc forcément un métier manuel. Et puis je suis née dans une campagne picarde autour de, donc dans l'Oise, qui est quand même une région où la pierre est très présente, et notamment la pierre calcaire assez tendre qu'on appelle la pierre du bassin parisien. Donc j'ai aussi vécu dans une région riche en patrimoine et aussi avec beaucoup de choses à voir dans tous les petits villages, que ce soit les petites églises, les maisons. Je me rappelle de ça quand j'étais petite, malgré que mes parents aient vécu et que j'ai grandi dans un pavillon en parpaing. Mais les copains avaient... pour beaucoup de vieilles fermes et... Ouais. Pour moi, ma mère, c'est... Je pense que son métier, ça a été vraiment d'être maman. C'est une maman. Et puis, mon père, lui, il était bricoleur. Et c'est vrai que dans son métier, c'était un grand passionné. Et il nous a transmis, malgré qu'on soit des filles, et ça, ils s'en foutaient. Je pense qu'on aurait pu être des gars ou des filles. pas de différence et il nous a appris à travailler le bois, à travailler nos mains, à aller aussi dans le jardin, etc. Donc on était avec ma sœur, parce que je dis on, mais parce que j'ai une sœur, une grande sœur, et puis avec qui je suis très proche. Et on a vraiment vécu dehors quand on était petit. Chez moi, on était libre, donc on faisait nos devoirs et à la fin, on sortait. Donc on était toujours dans la nature, je faisais des cabanes avec le copain qui était à côté et donc j'avais cette habitude de ne pas avoir trop de murs et trop de personnes qui me disent quoi que ce soit, à part à la maison où c'était strict. Et à l'école, bah, j'écoutais, je pense que j'étais pas une personne en classe qui faisait... trop de bruit, mais à la récré ou quoi, j'étais plus dans un univers où j'aimais être libre. J'aimais pas qu'on me dise trop que faire. Pour moi, l'adolescence, ça a été une période très contrastée. Et le moment, on va dire, où j'ai pu sentir la rupture avec l'enfance, alors que j'étais pour moi très attachée à mon enfance, qui était parfaite, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et là, on commence à voir le jugement des autres. Et une pression sociale qui est de plus en plus importante, que j'ai absolument pas aimée. Et je crois au début, j'ai essayé de m'adapter jusqu'en troisième. Et je pense que je me suis sentie un peu, on va dire, plus adulte au lycée, où j'ai décidé d'être assez solo et de me détacher complètement de l'univers des petits groupes, etc. Donc j'ai essayé de faire mon chemin, on va dire, un peu solo quand même. Et c'était pas une période pour moi très humainement qui était pas géniale. Mais par contre, du coup, j'ai énormément lu, je me suis énormément inspirée. Et puis j'ai commencé à faire du vélo. Donc moi, j'étais assez solo, j'avais mon sac. Et puis le soir, je me cassais en vélo dans la forêt parce que j'habitais à côté de la forêt de Compiègne. Donc c'était simple pour aller chercher la nature, elle était pas loin. Et dans la forêt, je partais le soir avec mon sac, mais en rentrant des cours, et puis surtout les week-ends, et puis les mercredis après. Puis c'est une période aussi où j'ai découvert les livres d'aventure, donc ça a commencé vraiment là, où... Voilà quoi, on a envie de se dire si je peux aller toute la journée en vélo, peut-être que je peux prendre une tente et puis rester un peu plus longtemps. Ce que j'ai pas fait au lycée, mais en tout cas c'était tentant. Et on va dire, mes envies de voyage vont commencer surtout avec des livres. Et ce monde justement, je pense, de l'école... Je suis pas mauvaise en cours, ça me plaît plutôt les cours, mais c'est plutôt le monde, les élèves au niveau des personnes, moi, qui vont me donner envie peut-être d'une certaine fuite plutôt, et en même temps une envie de découvrir, me dire que oui, ce monde-là que je connais, en fait, c'est juste un petit grain de riz et que faut pas que ça m'atteigne trop, même si j'y suis pas bien, parce qu'en fait, pour moi, grâce aux livres, etc., je vois que le monde, il est immense et ça me donne réellement envie de faire le tour du monde. Et donc, à ce moment-là, d'avoir l'impression de pouvoir être une petite plume et de pouvoir se donner aussi la possibilité d'aller partout, et en tout cas d'en avoir conscience. Parce qu'à ce moment-là, je ne le fais pas, mais j'en ai conscience et j'en ai vraiment envie. Et je pense que dans ma tête, je me dis, dans tous les cas, même si c'est pas là, je le ferai. Ouais, moi, j'avais pas non plus d'argent. Donc, mes parents non plus. Enfin, ma mère surtout, avec qui je vivais, non. Et j'ai dû travailler. Et surtout, mes parents qui étaient de la classe plutôt ouvrière m'ont dit de travailler et d'avoir un métier, quoi. Après, tu pourras faire ce que tu veux, mais... Donc, j'avais aussi cette pression-là en me disant, je vais pas pouvoir partir comme ça tout de suite. Donc, j'avais d'abord l'objectif d'avoir un métier en poche pour après voyager. Et c'est à peu près ce que j'ai fait, mais mon premier... grand voyage, ça a été de savoir si je pouvais et si ça allait me plaire de partir dans un pays où je connaissais pas la langue, qui était loin et où je pouvais voyager seule. Donc j'ai choisi la Chine. Après mes études d'architecture, je voulais construire. Et c'est durant mes études en architecture où j'ai eu un manque de matérialité et beaucoup trop de théorie. Et avec on a des études extrêmement intéressantes, sans toutefois rentrer dans une spécialisation concrète. Donc en fait, on a une culture générale très, très intéressante, enfin... Je pense que c'est les seules études en architecture où on a autant de cours scientifiques qu'historiques, de la sociologie, de la philosophie, etc. Donc, personnellement, ça a été riche, mais en même temps, pour imaginer un métier, c'était assez compliqué. Et j'ai fait un stage en taille de pierre où j'ai eu le premier rapport avec la pierre. Et... ça a été un coup de cœur directement avec le matériau. Et au bout de la deuxième année d'architecture, je me suis dit, j'ai besoin de concret. Donc, je savais que cette pierre m'avait vraiment touchée. J'avais eu un vrai dialogue qui s'était créé avec ce matériau-là. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, voilà, pour comprendre comment bâtir, j'ai envie d'aller vers ce matériau et je regrette pas. Parce que j'ai eu les réponses qui me manquaient. Je devais avoir 21 ans, un truc comme ça. Ouais, 21. Et je suis partie un mois en Chine toute seule. Ça a été pour moi une révélation dans le fait que ce voyage-là, je l'ai apprécié. J'ai découvert plein de choses, etc. Mais en même temps, je ne l'ai pas apprécié parce que j'avais l'impression d'être comme un colis qui arrivait quelque part et qu'on n'avait pas commandé. Et je me sentais complètement illégitime parce que j'ai rencontré des gens avec qui j'ai énormément sympathisé, mais... je ne pouvais pas avoir cet échange en disant « Ah bah écoute, l'été prochain, tu viens chez moi, je te rends la monnaie de ta pièce que tu m'as... » Enfin, en fait, du cœur, quoi, qui m'a offert et qui m'a permis de découvrir son pays. Et moi, j'avais juste eu aussi une envie de partager. Donc, ça m'a permis de comprendre que je ne voulais pas voyager sans but et sans possibilité de partage. Donc, pour moi, ça a été important. Parce que bon, j'ai su que je pouvais voyager toute seule, mais aussi j'ai su quel type de voyage et comment je voulais partir. Quand on se retrouve tout seul dans le voyage, au départ, ça a été surtout dans l'avion où on se dit « bon, bah, qu'est-ce que je fais là ?» Est-ce que bon, je ne peux pas sortir là, on est là, bon... J'avais économisé pas mal de quelques sous quand même pour ce voyage-là, donc bon, on se dit, bah maintenant, il faut que j'y aille, quoi. Puis après, on se laisse prêter au jeu, c'est comme un... Il y a beaucoup d'adrénaline aussi, on est dans une situation d'inconfort et où je pense les sens sont décuplés, un petit peu comme une survie. Il faut s'adapter, il faut comprendre, on doit être ouvert à l'autre. Voilà, tous les sens sont comme un enfant, je pense. Le voyage, ce que j'aime bien, c'est qu'il nous met dans la situation de, comme si on était enfant, où on a ce regard d'apprentissage sans trop de jugement, puisque c'est nous qui ne sommes pas à notre place. Donc c'est à nous de s'adapter et de comprendre un nouveau langage, de comprendre des gestuels. Et ça remet toutes nos habitudes et habitus en cause. On est complètement... c'est une remise en question complète, et ça, je trouve ça extrêmement intéressant dans le voyage. Mais ça peut se faire aussi simplement dans la ville d'à côté. Donc je décide de partir de l'architecture puisque l'univers me dérange au niveau humain, mais aussi au niveau de l'apprentissage qui pour moi est beaucoup trop théorique, et pour bâtir et même pour créer en général, je pense, c'est un ressenti personnel, mais je pense nécessaire notre relation à la matérialité, à la terre, à notre environnement. Et pour moi, la théorie découle du concret. Donc nos mains, ce qu'on voit, nos sens, c'est du concret. Si on ne les comprend pas, on ne peut pas aller au-delà. Et c'est ce qui me manquait profondément. Et malgré ça, bah, 2 ans après le lycée, on est encore bien malléable. Et l'architecture m'a modelée de façon que je n'ai pas du tout appréciée. Donc on nous apprend à être assez imbu de soi-même et à être un peu commercial. Et ce n'est pas du tout en soi ma nature. Donc j'arrive dans l'univers de la taille de pierre où on m'apprend à tailler un matériau que j'adore parce qu'il est dur et en même temps fragile. Et moi, ça me... Enfin, clairement, c'est un matériau qui... C'est mon matériau. Je pense que chacun a un caractère qui est lié à un matériau, ou en tout cas peut-être des énergies ou quelque chose en soi qui fait qu'on a plus ou moins un matériau. Il y en a qui ont la chance de le découvrir, je pense. Si on le touche, si on est en contact avec, ça peut être le son. Ça peut être plein de choses, je pense, mais voilà, moi, j'ai trouvé le mien et j'en suis, je pense, très chanceuse. Et à ce moment-là, j'en ai conscience. Et en même temps, donc, la pierre, elle ment pas. Donc, moi, ce que j'ai appris en architecture, où il fallait des fois un petit peu faire du blibli, blabla, enfin, arrondir les angles et presque... Voilà, ce côté commercial, hein, où on embellit les choses, etc. Dans la pierre, on ne peut pas. C'est oui, c'est non. Il n'y a pas... La pierre, elle casse. On ne peut pas dire oui, mais non, mais là, en fait... La pierre, elle a cassé. On ne peut plus se mentir à soi-même, donc on est obligé d'être entier. Et la pierre, moi, ça m'a remis dans mon intérieur d'enfant. Et je me suis retrouvée avec des personnes... où j'ai aimé la matière, mais aussi ça a été un coup de cœur humain. En partant de ce monde un peu parisien, très très théorique, intellectuel, etc. Et puis retrouver des personnes un peu plus brutes, plus vraies, mais pour moi plus doux, parce qu'on peut être entier et sans se cacher. Et à ce moment-là, je leur ai dit, écoutez, moi je veux redevenir comme j'étais petite, donc si je parle comme une architecte, vous me le dites et puis vous me cassez, quoi.
Dans mon sac de matelot, j'ai mis tout ce que j'avais de plus beau. Souvenirs de tout pays, bouteilles de rhum et de whisky. Une montre qui ne marche pas, ma pipe et mon tabac. J'y ai mis l'harmonica, j'avais acheté ça à Malaga. Avec mon harmonica, je souffle la voile à l'harmonica, l'harmonica. Pour naviguer la polka, écoutez ça les gars, faut faire l'harmonica. Il m'accompagne partout, une chanson prête à chaque trou. Il s'est détendu.
Et quand j'arrive dans le milieu de la pierre, je m'y sens vraiment très bien. Et je sais que j'ai trouvé en tout cas un univers. Ouais, j'ai besoin qu'on soit aussi franc et ouais, une certaine dureté dans le peut-être dans la pédagogie et dans la réalité des choses, hein, même comme ton voyage ou... Comme je disais, quoi, la pierre, si elle est cassée, elle est cassée. Donc en fait, on ne peut pas être en face aussi de personnes qui... oui, non mais là, ça va aller. On ne peut pas tricher, donc on a des personnes aussi assez dures en fait en face et qui nous renvoient à une réalité et à une force. Bon bah oui, on peut m'aider par exemple en portant des choses, etc., ce que j'ai pas trop fait, parce que j'ai pas non plus... à ce moment-là, moi, je suis très sportive, etc., enfin, j'ai pas du tout de problème physique, donc tout va bien à ce niveau-là. Je fais mes preuves assez rapidement, et j'arrive à travailler plus vite que la plupart des gars, donc voilà, le CAP, ça, voilà, ça se passe très bien, et j'arrive à développer... ouais, avoir ma place, quoi, sans trop de problèmes avec ce milieu qui est plutôt masculin. On est deux filles au CAP sur 10 garçons, enfin sur non, un groupe de 11. Après le CAP, on est tailleur de pierre officiellement, on a un diplôme, mais je décide d'aller un petit peu plus loin parce que c'était un CAP adulte, donc de 1 an, avec des moments en entreprise, mais j'ai envie d'avoir du temps pour dessiner et aussi pour travailler à la main. Et puis il y a aussi une chose que j'aime beaucoup dans la pierre, c'est le dessin technique. Et le dessin technique, il y a une école qui en fait un petit peu plus, ça s'appelle le brevet professionnel des monuments historiques, c'est pendant 2 ans. Et on taille la pierre à la main et on dessine, on apprend à dessiner un petit peu plus. Donc moi j'avais vraiment envie de me spécialiser là-dedans et aussi surtout en fait d'avoir du temps pour travailler à la main, pour comprendre la matière, parce qu'après en entreprise on travaille qu'à la disqueuse. Donc ces moments-là je savais que dans ma vie ça allait être rare. Et soit on se donne le temps personnel le week-end, mais sinon, avec sa propre entreprise, travailler à la main aujourd'hui, c'est quand même compliqué. Mais du coup, je voulais avoir ces bonnes bases-là, un peu à l'ancienne, quoi. Connaître mon solfège, en quelque sorte. Donc depuis le CAP, j'ai entendu parler des compagnons. Je connais déjà deux, trois personnes qui sont dans ces parcours-là de compagnonnique, qui, en fait, le compagnonnage, je découvre, donc c'est un rassemblement, un regroupement plutôt de professionnels de tout métier, artisans principalement, qui vont se mutualiser pour se former tout au long de leur vie et notamment aussi au début de leur carrière où on peut faire le Tour de France, voire aussi aujourd'hui en Europe, à l'étranger, et apprendre dans plusieurs entreprises. Donc ça peut être tous les 6 mois, tous les 1 an, où on change d'entreprise. Et faut savoir que la pierre, il n'y a pas qu'une pierre, par exemple, comme le bois. Il y a plein de sortes et de types de pierres, qui veut dire plein de différentes duretés et qui veut dire aussi plein de différentes techniques et plein d'outils différents. Des façons de faire, des vocabulaires différents, des formes différentes selon aussi les régions. On va pas, si on restaure une église en Alsace, on va avoir des formes qui n'existent pas, par exemple, dans le sud de la France ou en Bretagne. Quand on fait notre Tour de France, il y a des professionnels qui souvent sont aussi très talentueux et qui ont un grand savoir-faire, qui prennent le temps de donner des cours. Donc on a aussi une formation qui sort de juste d'une école avec un prof et puis des stages, et on nous donne un diplôme et bonne chance et bon courage pour toi. Là, on a des gens qui croient en nous et dans lequel il y a ce qu'on appelle l'esprit fraternel ou de sororité aujourd'hui aussi, qui est celui d'une famille où on va croire aussi en la personne pour qu'il puisse se développer professionnellement et, je pense, personnellement autour de valeurs. J'apprends qu'il y a l'association compagnonique, donc celle que à peu près tout le monde connaît et peut avoir en tête, puisque c'est eux les plus gros et qui ont une grande communication. Voilà, pour moi, c'est pas ce que je recherche à ce moment-là. Et je découvre qu'il y a 2 autres sociétés, donc un petit peu moins connues, qui s'appellent la Fédération compagnonique et l'Union compagnonique des Devoirs Unis. Et ces deux sociétés, à ce moment-là, n'acceptent pas les femmes. Bah, moi, j'essaie de comprendre pourquoi. Moi, je me révolte pas, mais j'essaie de comprendre pourquoi. Et à ce moment-là, vu que je sympathise avec des personnes de ces sociétés-là, je vais faire mon tour avec eux, comme s'ils les acceptaient. Donc, je fais mon tour, ce qu'on appelle en renard. C'est qu'on n'est pas exactement dans la société, mais je participe à leurs événements. Je participe à des colloques, donc il y a des cours du soir, il y a des week-ends où on se réunit, et puis on va faire un escalier, on va dessiner ensemble, on va faire une maquette. Donc moi, je fais comme si je m'incruste et voilà, et ça se passe. Donc globalement, on me dit rien, on m'accepte. Il y a juste certains anciens qui vont me faire quelques réflexions, mais moi, j'essaie aussi de les comprendre. J'essaie de savoir pourquoi ils accepteraient pas une femme. Qu'est-ce qui est la différence ? Et je vois qu'en fait, c'est aussi des personnes qui ont la plupart du temps 70 ans, 80 ans. Et ils n'ont pas d'amis filles. Ils ont fait l'école et souvent des métiers manuels, donc sans présence féminine non plus. Leur présence féminine, c'est leur femme, leur fille ou les personnes de leur famille. et les copines de leur femme ou de leur fille. Donc ils n'ont pas de copines. Et... Donc d'abord, c'est pas la problématique. Je la comprends tout de suite. C'est juste le fait que je suis en face de personnes qui n'ont pas l'habitude de côtoyer des femmes. Et moi, j'essaie juste de, dans mon attitude, de me mettre non pas comme homme-femme, mais comme collègue, ouvrier, ouvrière, ou, enfin, on s'en fout. Et une personne qui travaille la matière comme lui l'a fait. Donc j'essaie de parler directement travail, je lui montre des choses que j'ai faites, et en général, à la fin, on parle métier, et il y a un truc qui se casse. Après, bon, on peut tomber sur des gens où ça marche pas, mais bon, ceux-là, on les met de côté, on les oublie, parce que sinon, on n'en sort pas. Voilà, donc je fais mon tour de France, on va dire comme ça, pendant 5 ans. Je vais finir mon BPMH, donc mon brevet professionnel, donc tout en côtoyant le compagnonnage, hein, je fais les deux en même temps. Et je rencontre à ce moment-là donc une personne qui est importante dans ma vie et qui est mon collègue et ami de qui va devenir mon collègue et ami de route, Louis. On décide à ce moment-là de créer un projet pour voyager parce que moi, en plus, je ne peux pas trop rentrer légalement dans le compagnonnage. Donc, le fait d'avoir cette personne qui a aussi cette envie puis de pouvoir voyager à plusieurs. Et puis, on se dit, moi, avec mon expérience en Chine, où je savais que je devais avoir un but... Là, on se dit, faire une étude sur la taille de pierre, travailler dans plein de pays, et on va faire une étude sur la taille de pierre en Eurasie, donc Europe et Asie. Et à ce moment-là, on se serre la main, et je me dis, avant, il faut que j'apprenne l'anglais. Déjà, il faut que je finisse mon BPMH, donc il faut que je finisse de faire mes études de taille de pierre. Et après, on va au Canada, et on monte... l'expédition en même temps. Qu'est-ce qu'on va faire, pourquoi, comment, etc. Et donc, au Canada, j'apprends l'anglais. Ça permet aussi de camper dans des endroits complètement ouf et puis de se dire, bon, s'il y a besoin de dormir dans la nature, normalement, à côté, dans les autres pays, ça devrait le faire parce que on s'est fait des tests à dormir dans une tente avec à côté des ours et des machins. Donc, bon... Bon crash test. Fume la cigarette. Fume, même si que ça te fait du tort. C'est toutes les non-fumeurs qui veulent la bonne heure. C'est eux autres qui devraient aller dehors. Et donc j'apprends l'anglais et on revient en France. C'est le Covid. Alors, le confinement est fini. Mais c'est le deuxième, là, on s'en fout, mais ouais, c'est dans les années, c'est quoi, c'est 2019, un truc comme ça. Et à ce moment-là, je gardais contact à l'étranger, à Vancouver, avec le compagnonnage. Et je crois que c'est en mai. Donc j'ai un événement de compagnon et tout. Et puis là, on me dit, écoute, Ryan, si t'es prête, si tu veux... On essaie de te faire passer itinérant, donc de faire passer ce qu'on appelle l'admission. Et c'est la première étape, ça voulait dire que je rentre officiellement sur le Tour de France et que je suis acceptée en tant que femme dans une société compagnonique qui est l'Union compagnonique, que j'ai choisie du coup. Donc je me lance sur le Tour officiel. Et là, on prépare en même temps avec Louis... le grand voyage, quoi, l'étude sur la taille de pierre en Eurasie, ça on l'oublie pas. La route de la pierre, on l'appelle. La route de la pierre, on la nomme ainsi parce que C'est inspiré de la route de la soie. On part du principe que la pierre, il y en a partout. Et les influences historiques qu'on prenne en France, en Allemagne, enfin dans l'Europe assez proche de nous, les influences, elles n'ont pas forcément de frontières. Les frontières sont perméables. Et d'imaginer en fait la route de la soie où il y a eu justement des transferts de savoir-faire, de... esthétique aussi, de langue, etc. Là, on est un peu sur le même process, mais autour, on pourrait prendre la soie, hein, la route de la soie, bah, la route de la pierre, c'est un peu la même chose, et on l'a bien vu parce qu'il y a effectivement des pierres qui se sont échangées, des pierres, des savoir-faire qui se sont transmis, etc. Et on a même des collègues qu'on a rencontrés en Géorgie, qui ont été à droite à gauche... pareil en Hongrie, qui ont été en Italie, en France. Ouais. On a une envie aussi de se dire, purée, mais comment on peut transmettre en fait tout ce qu'on va voir. Ok, nous on a cette curiosité-là, mais l'idée c'est peut-être aussi de garder ce qu'on voit pour pouvoir les transmettre en France et essayer de faire évoluer ça. Et garder une trace, parce que sinon on le refait à l'infini, puis il faut savoir que les outils changent là potentiellement, on ne sait pas comment aussi, je sais pas moi, dans 50 ans avec certaines arrivées technologiques, ça pose des questions aussi sur les savoir-faire. On veut documenter notre métier et aussi en même temps faire peut-être un pied de nique à une forme de pensée qu'on alimente énormément en France, qui est le fait que si on est dans le manuel, on est des teubés. Bon, en gros, c'est un peu ça. Oui, par exemple, au lycée, on va pas dire « Tiens, toi, t'es fort en maths, tu vas pouvoir faire de la stéréotomie en charpente ou en taille de pierre. » Non, on t'envoie faire un bac pro avec... voilà. On n'a aucune notion de ce que peut apporter le manuel. Au fur et à mesure, donc on crée aussi une équipe, tout ça avant de partir. Là, on n'est pas encore parti. Et dans cette équipe-là, on va avoir un conseiller en géopolitique pour nous dire voilà ce qu'il faut faire, machin et tout. Bon, ce qui nous sert plus en Ouzbékistan. Et une personne qui va aussi nous permettre d'avoir des contacts aussi culturels, etc., dans les pays pour avoir des facilités au niveau des informations, parce que c'est un peu la chasse au trésor quand même. Et après, on va avoir une archiviste. Donc tous les mois, quand on est sur la route, on va lui envoyer à peu près une dizaine de kilos de colis avec des morceaux de cailloux, des bouquins, etc. Donc elle a reçu des colis de partout dans le monde avec, avec des cailloux. Et elle les a stockés chez elle pour... nous, à la fin, sur le vélo, il y a 50 kilos de cailloux. Bon, c'est un peu compliqué. Oui, parce qu'il y a un élément important, c'est que le voyage se fait à vélo. Avec une chariote pour les pierres. L'idée, c'est de ramener des pierres. Sinon, c'est pas drôle. Et y a le fait que ce soit économique et en même temps facile pour les rencontres, c'est pas encombrant, etc. Et puis aussi, une petite affinité, puisque moi, le vélo, c'est aussi un moyen de liberté au niveau des, au niveau du déplacement, parce que bah, j'en faisais quand au lycée, au collège, dans la forêt, c'est oui, il y a un petit côté où je fais le rêve que de quand j'étais au lycée, quoi. Et donc le vélo, ouais, il y a ça, voilà, il y a un côté libre, c'est le compromis entre la marche à pied et la voiture. Quand on fait du vélo, on voit que on peut aller n'importe où. On peut le mettre dans un avion, on peut le mettre dans un bateau, dans un train. Et même juste au niveau des kilomètres, on peut aller très loin facilement. Et puis au niveau aussi des frontières, c'est simple. Donc on part à vélo. On choisit le vélo. Parce qu'après, oui, il y a toute l'équipe encore. On regroupe à peu près une dizaine de personnes au niveau de l'association qui permet de nous... de nous supporter dans cette tâche, dans cette expédition. C'est pour ça qu'on l'a nommée expédition, parce qu'on n'est pas tout seul. Donc je pars avec Louis, donc sur nos vélos, les sacoches qui sont accrochées, avec une sacoche outils. On a des outils de taille de pierre simples, mais en se disant s'il faut travailler, on n'arrive pas comme des touristes avec rien, puisque le but c'est quand même de travailler minimum 3 semaines, 1 mois dans chaque pays, en plus de récolter les informations. Et l'itinéraire, la base, là, c'est de partir 1 an. D'aller jusqu'à la mer Noire, donc de faire la Suisse, puis après en Allemagne, en Autriche, Hongrie, Serbie, Bulgarie. Et on repart, donc tout le chemin dure 1 an. On reste en moyenne entre 3 mois et 1 mois selon les pays. Enfin, 1 mois et demi plutôt. Et à ce moment-là, je pars aussi avec la mission de réaliser ma pièce de réception pour devenir compagnon. Donc, en fait, j'avais été admise. Et la dernière étape pour devenir compagnon, c'est de tailler la réception, ce qu'on appelle le chef-d'œuvre, pour, on va dire, le gros mot que la plupart des personnes vont connaître. Le chef-d'œuvre, c'est une pièce finale qui permet d'y mettre son cœur, ses affinités avec le métier, mais aussi de montrer de quoi on est capable dans le métier. Donc c'est une année extrêmement intense où en même temps qui est absolument incroyable, parce que tout ce qu'on avait prévu en fait sur la route, on arrive à le faire. Et on revient avec à peu près 100 kilos d'archives qui ont été envoyées, et avec une trentaine d'interviews de tailleurs de pierre de tous les pays qui racontent leur vie, avec des dessins de tous les pays, avec des 3 journaux de bord, et puis plusieurs dizaines d'articles qui expliquent un petit peu, je sais, toutes les histoires, et puis tout ce qu'on a pu voir sur la route autour de la taille de pierre de notre métier. On voit que notre métier existe partout encore en Europe, et qu'il y a des savoir-faire qui sont encore là, et même des anciens. On a rencontré plein de profils différents, et toujours ces mêmes profils de personnes passionnées. Et donc oui, sur toute la route, il y a quand même 3 filles. On rencontre pas vraiment de femmes dans le métier, mais je suis très bien acceptée. Moi, j'ai jamais eu de problème, et mes collègues acceptent, et j'ai jamais eu de personne qui me dit non, tu peux pas travailler, ou qui me jugent. Alors bon, il y en a quelques-uns qui vont juger au début, mais normal. Après, bah, je travaille, je fais mon travail et puis tout se passe bien. Et puis donc, cet itinéraire de la route de la pierre, on a décidé de ne pas faire tous les pays en une seule fois. Donc tous les ans, on revient en France parce que l'été 2023, on retourne en France. Donc moi, je deviens compagnon du coup. J'ai fini mon tour de France. Ma pièce de réception, donc ce qu'on peut appeler dans le jargon chef-d'œuvre, mais bon. Et on est en novembre 2023. On reste en France jusqu'au printemps 2024. Et surtout, bah, on prépare le nouveau départ. Second round.
Ty jsi premladá, a já jsem prestar za čekaně. Míry jsou zraku mekaně, odkáda tvoje sreo samoči, sa nové noči počinje.
Donc là, l'idée, c'est de passer la mer Noire et de faire la Géorgie, l'Azerbaïdjan et l'Ouzbékistan. Donc on repart à vélo. Là, cette fois-ci, l'idée, c'est de prendre un bus. Il y a un festival de tailleurs de pierre en Hongrie. On revoit les copains. On revoit nos collègues aussi avec qui on a travaillé. Et puis après, direction en vélo, la Bulgarie. On prend le ferry. Et on arrive en Géorgie début juin. Et là, on sait qu'en Géorgie, on a déjà du travail. 3 mois, puis après, on ne peut pas passer en Azerbaïdjan avec les problèmes politiques et les frontières fermées. Du coup, on va en Ouzbékistan. Et là, on reste pareil 3 mois. Et on rentre en novembre 2024 en France. Et là, moi, j'avais aussi un amoureux qui m'attendait. Donc, ça a un peu raccourci aussi, voilà, cette partie-là. Puis après, on va dire 2 ans et demi de vadrouille et de moments très, très intenses. Il y a un besoin du côté de Louis et de mon côté qui se fait... Là, il est temps de poser les choses, mais plus ou moins quand même. Et là, l'opportunité et la vie fait qu'il y a un atelier, un grand atelier qui se libère avec une amie aussi qu'on a en commun, qui est graveuse sur pierre. Et donc, on prend cet atelier à trois. Voilà, le hasard fait bien les choses, enfin le temps, je ne sais pas. Et voilà, cet espace est... tombe parfaitement, donc j'emménage dans la Drôme. Et il faut savoir aussi qu'autour de toutes ces aventures, il y en a une à l'intérieur qui fait que depuis 2022, un projet de film aussi se fait autour de projet de la route de la pierre. Et ce film, c'est en juin 2025 que je le tourne, donc rebelote, on repart avec les vélos. Et avec l'équipe de tournage. Et l'idée, c'est de le faire en Géorgie, qui a été un peu un pays clé de toute cette aventure, parce que c'est un pays central, c'est entre l'Europe, entre l'Asie. Et on a découvert aussi des spécialités de savoir-faire, enfin des savoir-faire très particuliers, notamment les tchoukourtma, qui sont une façon de travailler la pierre en bas-relief, et c'est normalement pour l'art orthodoxe. Donc le film se fait en Géorgie. Un mois de tournage, complètement intense, donc les vélos dans l'avion, etc. On refait en fait ce qu'on a fait en 2024. On revoit les amis, on revoit des gens qu'on a croisés. Et aujourd'hui, bah, le film est fini. Il sera sur Arte cette année. Et là, moi, je travaille à une exposition qui va permettre, bah, comme on disait, l'idée, c'est de partager aussi au grand public un savoir-faire et toute la possibilité en fait, qu'il y a derrière ce savoir-faire, que ce soit les savoirs, les connaissances, mais aussi la culture. Nous, on a découvert des chants, il y a des traditions, il y a énormément de choses autour d'un métier. Et que ce n'est pas juste un métier. C'est une part d'humanité. Et ça, dans plein de métiers manuels, c'est ça aussi qui est important, c'est que ça concentre plus que juste on fait et puis on nous commande et on fait. Non, c'est une culture, c'est un langage. Et donc bah là, je travaille à cette exposition qui va permettre de découvrir une partie de la taille de pierre autour de ces différents pays-là. On va dire qu'en ce moment, on va pouvoir, ça y est, rendre ce qu'on a un peu à tout le monde, ce qu'on a un peu promis dans ce projet-là, qui est de valoriser, de montrer un métier manuel, parce que projet-là, il pourrait se faire avec plein d'autres métiers en soi. Il y a quelque chose qui est extrêmement beau aussi dans la pierre et qui peut se voir avec tous les échanges et qui raccroche aussi au voyage, c'est que la pierre, elle est, on peut la croire fixe, mais elle pousse tous les jours sous nos pieds. Elle concentre tous les souvenirs de notre univers. Et il faut savoir que nous, on va devenir pierre. C'est du vivant, en fait. C'est toutes les traces de vivant sont compactées après en pierre. Et la pierre, elle, normalement, elle est volcanique et puis elle a plein de formes différentes, mais elle se transforme elle-même. Le calcaire devient marbre, le marbre peut devenir volcanique, etc., etc. Tout est circulaire et la pierre bouge. On n'en a pas conscience, mais elle a un cœur. La pierre, elle est, pour moi, ça a été une inspiration. Je pense aussi qu'elle m'a réconfortée dans ce que j'ai fait. Le fait de voyager autour de ce matériau-là et de le travailler. Et le voyage, il a pris sens grâce à ça. Sans, en fait, ça serait plus une fuite ou quelque chose qui était très égoïste, parce que je ne peux pas aller voir... on oublie aussi sa famille et ses proches quand on voyage, il y a quelque chose qui est quand même extrêmement dur. La plupart des personnes dans l'humanité, elles ne voyagent pas par plaisir, à long terme. Je parle des longs voyages, c'est... l'humain, il s'est jamais dit « Oh, trop bien, je vais partir 3 ans sans voir ma famille et les personnes que j'aime. » C'est super. Et du coup, cette idée de voyage avec la pierre et de pouvoir partager à la fin quelque chose avec d'autres personnes, ça anime et ça permet vraiment de se dire il y a un but, il y a un objectif qui est déterminé, qui est clair, et les gens que j'ai rencontrés aujourd'hui, je sais que je peux les voir, et vu que j'ai mon association, etc., on peut toujours se démerder pour qu'ils puissent venir aussi en France, qu'on puisse continuer à échanger. Et ce qui m'avait, au début, en Chine, mise très mal à l'aise par rapport à ce côté unilatéral du voyage, où on voyage, on prend, mais on peut pas... les personnes qui sont là, et elles peuvent pas venir te voir et faire la même chose. Et aujourd'hui, de savoir que autour d'un métier et autour de toute cette énergie et du matériau qui rallie, de pouvoir savoir que les personnes qu'on a rencontrées en Bulgarie, même si elles sont pas bien riches ou quoi, on peut quand même les faire venir en France. On a fait venir notre collègue géorgien qui avait jamais voyagé. Il est parti en France un mois avec l'association. Il a travaillé dans une entreprise en France, etc. Donc tout ça, c'est vrai que d'avoir cette possibilité, de créer cette possibilité-là, ça donne tout son sens au voyage pour moi. C'est... comme la pierre qui fait qui finit son cycle et puis qui garde des petits bouts de mémoire en elle. La pierre et quand on quand moi je vois petite échelle ce que le projet et puis ces voyages ont permis autour du matériau, c'est pas exceptionnel, parce que je pense que la pierre, elle a toujours eu tendance à... Enfin, l'humain a utilisé la pierre qui a permis de créer l'histoire, qui lui a permis de créer ses monuments, ses cités, ses identités. Et aujourd'hui, on a nos références. Si par exemple, demain, on mettait une bombe dans Versailles, on perd... une part de notre identité, et c'est principalement du caillou. Même si c'est matériel, ça va au-delà. On sait qu'on œuvre à quelque chose qui va rester. Nous, on va pas forcément rester, mais en tout cas, ce travail de groupe-là, c'est un peu comme si on était des petites fourmis et qu'on était... fallait tenir la fourmilière. On sait pas trop pourquoi. Mais c'est ancré en nous, il y a comme une mission non identifiée qui est plus fort que nous, je pense, ce côté de l'humain qui doit bâtir, qui doit faire des projets, et la pierre, c'est en tout cas ça a été, j'espère que demain on l'utilisera encore un peu plus, on la réutilisera pour garder justement des belles choses que l'humanité peut faire et qui nous réunit. C'était Oriane, et ça a été un plaisir pour moi de vous partager ce petit moment de voyage radiophonique et minéral.
Que ce soit une histoire ancienne ou une histoire à dormir debout, ce soir, tu as découvert un invité à travers l'histoire qu'il t'a racontée. C'était Raconte-moi une histoire.
Aura des pâquerettes. L'émission qui prend de la hauteur.
Le rendez-vous mensuel d'Aura FM, la Fédération des radios associatives d'Auvergne-Rhône-Alpes.
Si vous êtes curieuse et curieux de découvrir d'autres territoires, rendez-vous sur aurafm.org.